Ok, s'il vous plaît, on va reprendre votre attention. Donc, j'ai fait un petit rappel sur la logique formelle. Je vous ai expliqué la distinction entre cette logique formelle qui est utilisée dans la pensée scientifique, dans la science, la différence avec la pensée de sens commun, avec le discours de, sens commun, discours de sens commun qui s'inscrit donc dans la pensée naturelle. On en arrive logiquement, vous allez voir, à ce que Rouquette a qualifié de pensée sociale. Alors j'en ai déjà, j'y ai déjà fait référence juste avant, et je vais maintenant vous réexpliquer à quoi correspond ce concept. Donc premier élément qui ne doit pas vous surprendre, il ne doit pas vous surprendre parce que c'est un cours de psychologie sociale et que vous devez être habitué depuis la première année avec des phrases de ce type. Les processus et les contenus de pensée sont déterminés, influencés par des facteurs sociaux. Là, normalement, ce n'est pas une révélation pour vous. Ce sont des éléments que vous connaissez, que vous maîtrisez. Évidemment, si on est cadre, si on est technicien, si on est patron ouvrier, si je veux caricaturer, on ne va pas penser de la même manière et on peut supposer également que ces processus de pensée peuvent différer. On peut également imaginer que si je vous donne un exercice à faire, là, tout de suite, maintenant, je vous dis que ce n'est qu'un exercice, ou si je change un peu le contexte. Je vous demande de prendre une feuille, de mettre vos noms, vos prénoms, et je vous explique que ça comptera pour 75% de la note finale. Je peux imaginer que vos réponses ne seront pas identiques, que vous allez peut-être, dans un cas, dans une situation de stress. Bon, ça, c'est, on va dire, c'est évident, c'est des choses que vous connaissez. La notion de pensée sociale que l'on doit à Rouquette, elle, s'appuie sur les faits que les processus de pensée ne sont pas les mêmes lorsqu'ils s'appliquent à un objet social et à un objet physique ou mathématique. Les processus de pensée ne sont pas les mêmes, ce sont des processus différents. Quand je parle du théorème de Pythagore, ou quand je parle de la rumeur sur le prof qui... Non, je ne vous le dis pas. Mais vous voyez bien que dans un cas, je vais parler d'un objet physique ou d'un objet mathématique, d'un objet conceptuel, abstrait, scientifique. Dans l'autre cas, je vais parler d'un objet social. Eh bien, le présupposé de Rouquette, c'est que les processus à l'œuvre dans, cette pensée vis-à-vis d'objets sociaux sera différente. C'est en 73, c'est en 1973 que Michel-Louis Rouquette propose la notion de pensée sociale, qu'il va définir de la manière suivante. La pensée sociale caractérise la pensée naturelle en ce sens qu'elle prend pour objet privilégié les autres, les relations entre les individus, les thèmes et les croyances du domaine collectif. 1973, Rouquette définit la pensée sociale en relation avec la pensée naturelle comme étant ce type de pensée-là qui prend pour objet privilégié les autres. Alors là, vous pourriez me dire immédiatement, mais monsieur, en fait, tout à l'heure, pendant la pause, là, il ne s'agissait pas de pensée naturelle dans nos discussions, il s'agissait de pensée sociale. Oui, vous avez raison, vous avez compris un élément du cours, oui. Il s'agissait de pensée sociale tout à l'heure parce qu'a priori, vous avez pris pour objet les autres. Donc, définition, je répète, la pensée sociale caractérise la pensée naturelle en ce sens qu'elle prend pour objet privilégié les autres, les relations entre les individus, les thèmes et les croyances du domaine collectif. Je vous ai expliqué depuis le début qu'il y a plusieurs types de pensées. J'ai opposé la pensée, vous retrouverez les diapos tout à l'heure, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas exactement noté la phrase. Ce que je veux, c'est juste que vous compreniez. Donc si par contre vous avez un problème de compréhension, vous levez le doigt, je m'arrêterai, j'essaierai de vous expliquer. Depuis le début de ce cours, j'essaye de vous expliquer qu'il y a en gros deux types de pensées. Cette pensée naturelle, qui peut être une pensée de type social, et une pensée scientifique, logique, rationnelle. Je ne voudrais pas que vous pensiez qu'il y a deux types d'individus. Ceux qui sont intelligents et rationnels et ceux qui sont stupides et qui sont soumis à la pensée sociale, à la pensée de sens commun. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. En réalité, les individus, vous, moi, tout le monde, nous sommes capables très facilement de passer d'un type de pensée à un autre type de pensée. Donc, il ne faut pas opposer le petit garçon qui croit au Père Noël à vous qui ne croyez plus au Père Noël. Enfin, j'espère. En réalité, chez vous, chez moi, chez tout le monde, on peut très facilement passer d'un mode de pensée à l'autre. Deux exemples pour ça. Premier exemple, c'est ce qui s'est passé peut-être ce matin. Vous étiez, donc rappelez, ce matin, le réveil pour vous, il a sonné à l'heure. Donc vous étiez en train de prendre votre petit déjeuner, tranquillement, vous remuiez votre petite cuillère là dans votre tasse de café, vous écoutez distraitement la radio. Assez distraitement, c'est un fond sonore pour vous réveiller doucement le matin après une nuit passée à réviser. Donc, vous êtes en train de vous réveiller doucement et là, il y a quelque chose qui attire votre attention à la radio. C'est quoi ? C'est quoi ? Les infos ? Non. Pensez que les infos attirent votre attention ? Non, c'est quoi ?
Avec les deux étoiles pour commencer, Agathe, ce sont aujourd'hui les Gémeaux, les Lions, les Vierges, les Verseaux.
Les Gémeaux, vous imposerez vos conditions à votre entourage et sans discussion, les Lions, avec le début des soldes, vous avez envie de faire des folies. Bah, c'est pas le moment, tant pis.
Ah bon ?
Je suis désolé pour les Lions. Alors là, vous étiez bien partis pour faire des folies. Eh ben non, ce matin, RTL2, s'il y a des Lions dans la salle, voilà, c'est raté. C'est l'horoscope. Vous êtes des êtres parfaitement rationnels, intelligents. Comme moi. Sauf que s'il y a l'horoscope qui passe dans la voiture quand vous êtes en train de conduire, vous allez écouter. Oh, pas tout l'horoscope, on s'en fout des autres signes. Ce qui compte, c'est le nôtre. Moi, j'y crois pas non plus, hein. Bon, on peut écouter deux secondes. Vous connaissez peut-être des présidents de la République, très rationnels, mais qui, avant de prendre une décision, consultaient une astrologue. On passe d'un mode de pensée à un autre, sans aucun problème. Autre exemple, ce cours va se terminer, vous allez rentrer chez vous très rapidement. Pourquoi ? Parce que vous êtes pressé d'aller réviser ce cours, de vous inscrire sur Cursus et de consulter les premiers documents. Et là, vous êtes sur le trottoir, vous allez arriver chez vous et sur le trottoir, face à vous, une échelle. Juste une échelle, il y a vous et l'échelle. Que va-t-il se passer ? Vous passez dessous ou vous passez à côté ? Dessous ou à côté ? En fait, votre réponse ne m'intéresse pas. Non, parce que quoi que vous fassiez, vous ne le ferez pas naturellement. Vous allez y réfléchir. Vous voyez l'échelle. Immédiatement, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Passer sous une échelle, ça porte malheur, moi, et 10 générations après, on va avoir la malédiction. OK ? Donc, il y a deux solutions. Soit vous passez sous l'échelle. Je suis passé sous l'échelle. Je le voulais. Soit l'autre solution. Ah tiens, sympa ça. Ouais, c'est joli. Ah bah tiens, il y avait une échelle. Bon, j'y crois pas. Attendez, ça va. Et oh, ça va. Et j'ai un quand même. J'ai un doctorat. Enfin, franchement, une échelle. Mais quoi que vous fassiez, que vous passiez sous l'échelle ou à côté, vous voyez bien que vous êtes passé d'un mode de pensée à un autre. Du mode de pensée rationnel, intelligent, au... J'y crois pas, mais quand même, ça coûte rien, d'accord ? Je jette le sel par-dessus mon épaule ou des trucs comme ça, ça coûte rien, j'y crois pas. L'horoscope, j'y crois pas, ça coûte rien. Donc vous voyez, on peut assez facilement passer chez un même individu d'un mode de pensée à l'autre. Il ne faudrait pas considérer que les gens sont soit dans un mode spécifique, soit dans un autre. Moscovici va proposer... va mettre en évidence plutôt trois phénomènes qui caractérisent cette pensée sociale, pensée naturelle, pensée sociale. Le premier phénomène qu'il met en évidence, c'est ce qu'il appelle la dispersion et le décalage des informations liées au fait que les interlocuteurs ne disposent pas tous du même bagage de connaissances. Okay. Notez pas toute la phrase, notez au moins le début. Dispersion et décalage des informations. Vous discutez avec quelqu'un. Que faites-vous quand vous allez vous présenter la première chose que vous demandez ? Oui, pas de chance, vous êtes devant. Avec mes cours, c'est très dangereux d'être devant. Je vous dis pour la prochaine fois. Bonjour.
Bonjour.
Sylvain Delouvet. J'ai un doctorat.
Je suis en lycée.
Non, mais d'accord. Est-ce que vous allez chercher quelqu'un qui a les mêmes connaissances que vous pour discuter avec lui? Est-ce que la première chose que vous faites, c'est de dire « Bonjour, ah, t'as l'air sympa, tu peux passer le test de QI, là, juste prends le pas personnellement, hein. C'est pas contre toi, mais je voudrais pas perdre mon temps à parler à quelqu'un qui est pas aussi intelligent que moi. » Est-ce que vous faites ça, vous? Non, j'en vois personne, ça va, ça me rassure déjà. Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Ça signifie que dans la vie de tous les jours, constamment, nous discutons avec des gens qui n'ont pas les mêmes connaissances que nous sur un objet. Alors ça peut être large, hein. Là je plaisantais avec un niveau culturel ou avec un niveau universitaire, mais ça peut être des connaissances sur la TVA sociale, on va en reparler tout à l'heure, sur la situation en Syrie. Bon ben voilà, vous n'êtes pas tous spécialistes, mais vous allez discuter avec quelqu'un. Et le fait de ne pas avoir les mêmes connaissances, de ne pas avoir le même bagage de connaissances, est-ce que ça va vous empêcher de parler? Si vous prenez des scientifiques, deux scientifiques qui se rencontrent, ça ressemble à une blague, mais ce n'en est pas une. Deux scientifiques qui se rencontrent. Oui, bonjour, je travaille sur tel théorème, etc. Si l'autre ne sait pas de quoi il parle, il va faire semblant. Ah ouais, le théorème de... Sympa, ouais, il est beau, il est beau. Non. Soit il va arrêter la conversation, ou il va lui demander de quoi il parle. Vous, est-ce que c'est ce que vous faites quand vous discutez? Non. On continue de parler, même si on n'a pas exactement les mêmes connaissances. Premier phénomène, donc mis en évidence. Deuxième phénomène... C'est la focalisation de l'attention. La focalisation de l'attention est le rôle de l'implication personnelle des individus par rapport à l'objet. Donc la focalisation de l'attention liée au fait que chacun s'attache à des aspects différents de la réalité en fonction de son intérêt et de son implication personnelle. L'année dernière, quand ce cours a débuté, j'ai introduit ce cours en présentant, en faisant une minute de silence d'abord, et ensuite en présentant les événements extraordinaires qui s'étaient déroulés dans le monde en décembre dernier, donc en décembre 2010. J'ai tenu à ce que les étudiants observent aussi cette minute de silence et à retracer tous ces événements qui ont conduit le gouvernement français à prendre position, qui ont conduit le Conseil de l'Europe aussi à élever fermement sa voix, qui ont conduit le maire de New York à prendre des dispositions qui n'avaient jamais été connues. Cet événement extraordinaire qui s'est passé en décembre 2010, c'était quoi? C'était la neige. Oui, il a neigé, vous vous souvenez? Ah, c'était super surprenant parce qu'on était en décembre et il neigeait. Mais si vous vous souvenez bien, pendant 3 semaines au moins, la une des journaux était sur quoi? La neige. Notre Premier ministre parlait de quoi? De l'incompétence de Météo France. Notre ministre de je sais plus quoi parlait de quoi? Des routes qui sont en pente, qui posent problème. Vous vous souvenez? Le maire de New York a pris des dispositions. La une des journaux était sur la neige. D'accord? Donc moi, je reprends, imaginez deux étudiants dans ces cas-là, en décembre 2010. Un étudiant qui habite à Rennes, dans le centre de Rennes, et un étudiant dont les parents habitent au fin fond du Finistère. Département extrêmement joli, comme tous les autres départements bretons. Donc, on a nos deux étudiants. Le premier étudiant, on imagine, ils arrivent là le matin avant le cours et ils discutent. Ils discutent de quoi? De ce qui fait l'actualité, à savoir la neige. Sauf que... Non, parce que mes exemples, quand même, sont en rapport avec le cours. Hein. Sauf que, focalisation de l'attention. Le premier étudiant qui habite à Rennes, il va dire quoi? Oh, c'est chouette, il a neigé toute la nuit. Oh, c'était un plaisir, je suis venu à pied, là, depuis mon appart, c'est juste pas loin. Oh, j'ai vu, il y avait de la neige dans les parcs, moi, ça me rappelle mon enfance. Avec mes sœurs, on faisait des bonhommes de neige, puis on se lançait des boules de neige. C'est bien parce qu'il y a Noël qui arrive, et puis Noël, c'est tout un esprit Noël, c'est la neige, c'est le froid, c'est le plaisir de... Oh, enfin, vous voyez un peu les... OK. Puis il y a l'autre étudiant, celui qui habite au fin fond du Finistère. Il a encore neigé toute la nuit. Les vacances arrivent. Je fais comment pour rentrer, moi? Les routes, elles sont pas dégagées. Et avec ma voiture, je fais comment? Non, parce que c'est quand même pas compliqué que la DDE sorte 2-3 machines. Ça, c'est encore une fois le gouvernement. Qu'est-ce qu'il a à faire de la crise, alors qu'il serait mieux de s'occuper de nos routes? C'est toujours pareil, c'est le gouvernement. Et puis en plus, si je prends pas le... Je voudrais pas y aller en voiture, je vais y aller en train. Ouais, en train. Vous avez vu, hein, la SNCF, ils vont encore être en grève. Je vous mets ma main à couper. Je fais comment pour rentrer? Stop. On reprend nos deux étudiants. Ils parlent de la même chose. La neige. Focalisation de l'attention. Ils n'ont pas du tout la même implication par rapport à la neige. Pourtant, ils vont discuter entre eux. Et ils peuvent débattre longtemps sur, je ne sais pas, sur ce que fait les services de la ville pour déneiger les routes. L'un trouvant qu'ils font très bien leur travail et que c'est joli de laisser de la neige. L'autre disant qu'à saler partout et puis on n'en parle plus. Focalisation de l'attention. Troisième phénomène mis en évidence par Moscovici, c'est la pression à l'inférence. Vous savez ce que c'est qu'une inférence? Une inférence, c'est lorsque on aboutit à une conclusion alors que l'on ne dispose pas des éléments qui nous permettent d'aboutir à cette conclusion. Je tire une conclusion alors que je n'ai pas les éléments qui me permettraient de tirer cette conclusion. La pression à l'inférence, nous dit Moscovici, va amener à prendre position rapidement face à ses interlocuteurs pour en obtenir la reconnaissance et l'adhésion. Vous rentrez chez vous après ce cours. Et en rentrant chez vous, toujours pour aller travailler, là, vous passez, vous êtes obligé, devant un bar. Mais vous alliez travailler. Vous passez devant ce bar et là, il y a des gens. Hey, tiens, salut, salut. Hey, viens. Je vais te présenter des copains, machin, bidule, chouette, truc. Sylvain, truc, machin, bidule, chouette, truc. Ah, c'est cool. Non, mais il faut que j'aille réviser parce que là. Non, allez, attends. Assis-toi 2 minutes, on boit un verre. OK. Maintenant, imaginez la situation. On va la faire scientifique. 2 conditions expérimentales. La première situation, là, vos copains, ils sont en train de parler. Dans les deux cas, ils sont en train de parler de la TVA sociale. Imaginez la première situation. Ouais, tiens, viens t'asseoir, Sylvain, c'est cool. Bon, alors là, tu sais, on parlait de la TVA sociale. Tu te rends compte? Le gouvernement, encore une fois, on arrive les élections, il n'a rien foutu. Et vas-y, que je te fous le bordel et que je te crée une TVA, un nouvel impôt, une nouvelle hausse. Ça, c'est inadmissible. Un pilote gouvernement, là, qui fait? Tu te rends compte? T'en penses quoi, toi? Deuxième condition expérimentale, comme diraient mes collègues. Tiens, viens t'asseoir. Oui, on parlait de la TVA sociale. Ah, tu te rends compte? Les élections arrivent, 3 mois, 4 mois, les élections, et ce gouvernement ne baisse pas les bras. Eh oui, il ne baisse pas les bras. Il propose une nouvelle action fort intéressante, la TVA sociale. Comment relancer l'économie? Comment, dans notre pays en crise, s'en sortir par rapport à tous ces autres pays qui ne font pas ce qu'il faut? Eh bien, nous avons un président. Toi, t'en penses quoi de la TVA sociale? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous répondez quoi dans les deux cas? Est-ce que vous allez répondre comme un être rationnel le ferait, comme un être intelligent le ferait? Excusez-moi, mais je ne maîtrise pas tous les tenants et aboutissants de cette question. Par conséquent, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vous propose que nous nous retrouvions mardi prochain. J'aurai eu le temps de consulter la presse internationale, la presse nationale, de me faire un avis, une position, une opinion sur cette épineuse question, je le sens bien, de la TVA sociale. Je vous remercie, machin, bidule, chouette, truc, chose. Vous faites ça? Non. Vous allez rester dans le groupe. Donc vous allez essayer d'aller dans le sens de ce qu'ils vous ont dit. Alors attention, parfois ça peut heurter ce que vous imaginez vraiment. Mais pression à l'inférence, vous allez utiliser des éléments extérieurs. Dans les deux cas, ils ont fait appel à quoi? Ils ont fait référence à quoi? Au gouvernement. OK, bah, je n'ai pas bien compris ce qu'était la TVA sociale, mais sauf que dans un cas, on me dit que c'est grâce à notre gouvernement qui a tout fait pour, et dans l'autre cas, on nous dit que c'est à cause de notre gouvernement. Bah, selon ma position, j'ai une réponse toute faite. Ouais, c'est à cause du gouvernement et tout. Eh ben ouais, eh ben ça, c'est encore pas normal. Tu te rends compte? C'est dégueulasse. OK, je ne sais pas ce que c'est, mais enfin, de toute façon, c'est le gouvernement, là, on peut dire que ce n'est pas bien. Bon, on fait de l'inférence. On prend un élément, on a abouti à une conclusion, et on peut faire la même dans l'autre sens. Pression à l'inférence, focalisation de l'attention et le fait que les individus ne disposent pas du même bagage de connaissances vont faire évoluer la discussion dans un sens qui n'est pas rationnel, dans le sens d'une logique formelle. La pensée sociale, de manière globale, sont à l'œuvre dans cette pensée sociale 3 types d'opérations cognitives. Par rapport à tout ce que je vous ai dit, je pourrais le résumer. Vous allez voir, je ne fais que me répéter. Je pourrais résumer cela avec 3 grandes opérations cognitives. La première, c'est le formalisme spontané. Le formalisme spontané correspond à un ensemble d'automatismes, un ensemble de clichés un ensemble de formules toutes faites que l'on utilise dans un échange. Parce qu'on fait partie du même groupe, il suffit d'utiliser des formules toutes faites ou des éléments que l'on comprendra sans que l'on fasse une longue argumentation. Vous êtes un groupe d'amis, vous avez l'habitude de vous retrouver toujours au même endroit le soir, enfin certains soirs, dans un bar donné. Si vous dites à votre groupe, bon allez, salut, à soir pour boire un verre, point, ça suffit. Vous savez tous ce que ça veut dire en gros, après dîner, vers 21h, 21h30, on peut se retrouver à tel endroit. Si vous étiez dans la logique formelle, dans la pensée rationnelle, il faudrait tout argumenter. Eh bien, je vous propose que nous nous retrouvions ce soir vers 21h, 21h05, à tel endroit. S'il n'y a pas de place dehors, je te propose que l'on se retrouve à l'intérieur, au fond de la salle, dans le cas où le dit bar serait fermé, où il n'y aurait vraiment pas de place. L'autre possibilité est d'utiliser mon numéro de téléphone. Je redonne mon numéro de téléphone. Vous faites ça? Non. Salut, à soir, on va boire un verre. Suffit. Parce qu'on partage un même langage, parce qu'on partage une même identité, on fait appel à ce type de formule toute faite. La deuxième opération cognitive dont j'ai déjà parlé également, c'est le dualisme causal. La tendance à confondre deux formes de causalité. J'insiste encore une fois, mais nous ne sommes pas des scientifiques dans la vie de tous les jours. Et nous allons avoir tendance à vouloir trouver des causes et des conséquences à un peu tout et n'importe quoi. Deux éléments sont apparus en même temps, coexistence temporelle, l'un forcément la conséquence de l'autre. Deux événements se sont passés au même lieu, l'un est forcément la conséquence de l'autre. On n'est pas dans de la logique formelle, on est dans une logique sociale, dans une logique de pensée sociale. La troisième et la dernière opération cognitive, c'est correspond au primat de la conclusion. La conclusion est déjà connue et posée avant les prémices. Primat de la conclusion. Depuis la première année, on doit vous parler en psychologie de la méthode hypothético-déductive. Ça vous parle ? La méthode hypothético-déductive. Attention, on pose une hypothèse. Je vous passe les détails, je simplifie, hein, si mes collègues écoutent, qu'ils se bouchent les oreilles. On pose une hypothèse théorique, on confronte cette hypothèse à la réalité, avec un questionnaire, une observation, une enquête, un entretien, ce que vous voulez. Et grâce à la confrontation de cette hypothèse à la réalité, à des données empiriques, on peut tirer une conclusion. Mon hypothèse était juste, était vraie, mon hypothèse était fausse. Mon hypothèse était valide, mon hypothèse n'était pas valide. Ça, c'est du raisonnement hypothético-déductif. Dans le cadre de la pensée sociale, c'est exactement l'inverse qui se passe. On part de la conclusion et on va réinterpréter la réalité à l'aune de cette conclusion. Au lieu de poser une hypothèse que l'on peut infirmer, dans le cas de la pensée sociale, on pose d'ores et déjà la conclusion et on ne bougera pas. On va réinterpréter toute la réalité par rapport à cette conclusion. Je vous prends un exemple qui relève de la formation d'impressions. Peut-être que, avant de venir à ce cours, certains n'étaient pas à Rennes avant et ne m'avaient jamais eu en cours, d'accord ? Donc avant de venir, vous regardez le cours Sylvain Delouvet, vous demandez à un de vos camarades, bon, le prof, là, il est comment ? Imaginons, allez, deux conditions expérimentales. Un camarade qui vous dit, oh là, tu vas rien y comprendre, il ne fait pas de plan, il te fait des parenthèses, il parle un truc, tu vas voir, il est distant, il nous parle tout de suite, machin truc, on ne comprend pas, pas sympa. Ok. Deuxième étudiant. Ah ouais, tu vas voir, c'est cool, alors tu vas voir des génériques, tu ne vas rien comprendre, mais c'est sympa, tu passeras toujours un bon moment, non, puis tu peux lui poser des questions, il répond à tes mails immédiatement, non, c'est cool. Bon, vous êtes dans la salle, j'arrive, même comportement, imaginons, j'arrive avec 10 minutes de retard. C'est un exemple, hein. Ça ne m'arrivera jamais. Donc vous êtes là à l'heure, parce que je commence à l'heure, je ferme mon parenthèse. J'arrive avec 10 minutes de retard, je pose mon ordinateur, je ne vous dis pas bonjour, je commence mon cours. Ok ? Vous vous êtes déjà formé une idée de moi. Par conséquent, vous allez réinterpréter ce que vous venez de voir, non pas comme un scientifique. J'ai une hypothèse, quel prof ça peut être ? j'attends la fin de son cours pour tester mes hypothèses. Non, vous partez de la conclusion. Il est nul, machin truc, ou il est sympa. Je caricature. On vous a dit, prenons le premier exemple. Ah ouais, tiens. Allez, vas-y. Même pas un bonjour, ça t'écorcherait. Ok. Hey, tu peux nous regarder quand tu veux. Non, ah, il nous explique pas, il commence son cours. Super, allez, vas-y, on va gratter pendant 2 heures. Ah, ben ça, c'est bien lui. T'as vu son costume, sa cravate, massin, monsieur, je sais tout. Je me mets loin, je vous fais mon cours. Eh ben, 4 séances. Deuxième étude, deuxième cas. J'ai fait la même chose, je suis arrivé 10 minutes en retard, j'ai commencé mon cours. Ça, c'est cool, ça, t'as vu? Tranquille, le prof. Je suis pas formaliste, le cours, ça commence 10 minutes. Et tranquille. Puis vas-y, je te fais pas. Bonjour, messieurs, dames, je me présente. Non, c'est cool, je commence mon cours direct, t'as vu? Puis le coup du costume cravate en sciences humaines, reine 2, oh, anticonformiste, ça, c'est cool. Ok, ben, je suis désolé, mais enfin, ma cravate, c'était la même tout à l'heure. Sauf que vous êtes parti d'une conclusion. Et à partir de cette conclusion, prima de la conclusion dans la pensée sociale, vous avez réinterprété tout ce que vous avez vu. Nous allons, pour terminer ce point sur la pensée sociale, écouter pendant quelques minutes Michel-Louis Rouquette. Donc Michel-Louis Rouquette, en 1973, va proposer la notion de pensée sociale. Il a participé à une conférence du Collège de France, dont je vais vous mettre un extrait audio. Ça dure à peu près 2 minutes 30, 3 minutes. Écoutez bien, il revient sur cette notion de pensée sociale pour un public au Collège de France qui n'était pas spécialiste de psychologie sociale. Écoutez, on revient ensuite sur son intervention et vous aurez sur Cursus le lien pour écouter les 25 minutes de son intervention et j'espère que vous irez les écouter. On écoute.
Et je crois qu'il faut d'abord préciser un peu ce qu'on entend par pensée sociale dans ma discipline, qui est la psychologie sociale. En effet, c'est une expression qui a une longue histoire, la pensée sociale, qui est assez polysémique et qui peut engendrer éventuellement des malentendus. Alors, tout de suite, je dirais qu'il ne s'agit pas de renvoyer au rapport à l'autre pris comme stimulus ou comme partenaire générique. C'est un point de vue différent de celui qui a été illustré et présenté hier. Il s'agit des rapports en société. Avec ce que cela implique de pouvoir, de contrôle et en général de concurrence ou de conflit. Pour faire bref, la pensée sociale, c'est tout simplement celle qui a pour pivot le citoyen. Non pas le sujet biologique, si vous voulez, non pas forcément le sujet psychologique, mais on y reviendra, mais le citoyen. Alors c'est une définition très courte, mais c'est une définition qui cache une réalité beaucoup plus bavarde. Il faut considérer que cette connaissance particulière, si nous admettons d'emblée que la pensée sociale, ainsi entendue, c'est une connaissance particulière, donc il faut considérer qu'elle porte tour à tour sur le citoyen comme sujet pensant, d'une part, comme objet d'analyse, d'autre part, qu'en est-il du citoyen et de ses conduites, et comme agent de réalisation, enfin. En somme, c'est une triangulation de l'univers politique au sens le plus large et, je pense, le plus propre du terme. D'un côté, nous avons le citoyen penseur qui s'approprie, comme il peut, tout un héritage d'opinion, de représentation et de valeur, j'ajouterai, dont il n'est pas l'auteur. Il est l'auteur de l'appropriation. Il n'est pas l'inventeur de ces valeurs et de ces représentations. D'autre part, nous avons le citoyen tel qu'il se trouve pensé, et on pourrait dire aussi bien imaginé, rêvé, cauchemardé, exalté, enfin, etc., par toutes les instances de pouvoir. Et enfin, nous avons le citoyen acteur, celui qui, par exemple, vote ou s'abstient, celui qui proteste, manifeste, milite, et entre autres, celui qui assiste aux cérémonies. Mais on va justement y revenir. Bien entendu, ces trois aspects s'enchevêtrent. Ce que nous pensons naïvement de la marche des sociétés, du fonctionnement de l'État, par exemple, emprunte aux propagandes. Celles-ci se nourrissent de sens commun, c'est bien connu, et les conduites les moins raisonnées ou les moins raisonnables se voient toujours attribuer après coup par les uns ou par les autres un sens prémédité. C'est donc une pensée peu organique, si je puis dire. C'est une pensée faite d'emprunts et de reflets, de bribes et de circonstances, mais qui est constamment soumise au registre gradué des sanctions que délivre la vie sociale. En général, vous n'avez pas beaucoup à inventer pour vous y retrouver, mais il suffit en certaines circonstances que vous pensiez un peu de travers, et alors vous allez vous retrouver en enfer.
Si je cite Michel-Louis Rouquette, disons d'emblée qu'il ne s'agit pas des rapports abstraits à l'autre pris comme stimulus, comme partenaire générique. Il s'agit des rapports en société avec ce que cela implique de pouvoir, de capacité ou d'incapacité de contrôle et en général de concurrence ou de conflit. Pour faire bref, la pensée sociale, c'est tout simplement celle qui a pour pivot le citoyen. Vous retrouverez sur Cursus l'intégralité de la conférence qu'a réalisée Rouquette au Collège de France. Vous retrouverez également un article de lui sur cette notion de citoyen penseur et de citoyen pensé qu'il a brièvement développé. Je vous invite vraiment à vous plonger dedans pour aller un peu plus loin dans ce premier cours. Je vais conclure par le point numéro 5 relatif à l'architecture de la pensée sociale. Architecture de la pensée sociale, grand 5. La pensée sociale, vous l'avez entreaperçue depuis le début de ce cours, peut se manifester de différentes manières et selon diverses échelles de temps. Je vous ai évoqué depuis le début les rumeurs. J'ai parlé rapidement de mémoire collective. J'ai parlé, sans le citer, de représentation sociale. Nous avons évoqué aussi les attitudes, être favorable ou défavorable tout à l'heure vis-à-vis d'un objet. Nous avons évoqué différentes formes de la pensée sociale. Les trois cours qui vont venir vont porter sur l'une de ces formes de la pensée sociale. La semaine prochaine, nous parlerons des représentations sociales. La semaine d'après, nous parlerons des rumeurs. Et puis, nous terminerons ce cours par une séance sur la mémoire collective et les nexus des objets à forte valence affective. Donc, on est confronté à toute une série de manifestations, de phénomènes. Rouquette, en 1996, va proposer une organisation de ces différents concepts les uns par rapport aux autres. Il va proposer une architecture, un modèle architectural, c'est-à-dire une relation qui pourrait exister entre ces concepts. Pour créer ce modèle, il va partir de deux critères. Le critère de consensualité, le consensus plus ou moins fort, plus ou moins élevé, et le critère, le degré de stabilité. La stabilité plus ou moins forte du concept en question. Donc à partir de ces deux critères, des éléments qui seraient extrêmement consensuels, partagés par tous, et des éléments qui seraient très stables, versus, à l'opposé, des éléments peu stables et peu consensuels, à partir de là, il propose un modèle. Alors, on reprend, nous aurions d'un côté des éléments au consensus fort, partagés par tout le monde. Parce que vous êtes, par exemple, français, vous partagez ces mêmes éléments-là. Consensus fort et stabilité très élevée. Et à l'opposé, nous aurions des éléments avec un consensus très faible et une stabilité également extrêmement faible. Alors, essayons de voir ce que propose Rouquette. Ce qu'il propose, donc, c'est de partir de ces éléments très stables, très consensuels. Et pour lui, ce qui est le plus stable et le plus consensuel, c'est l'idéologie. L'idéologie est ce qui, dans une société, est le plus communément partagé par tous les membres de cette société et le plus stable également. Imagineriez-vous un instant une société qui serait un institut de sondage, non pas d'opinion, mais un institut de sondage d'idéologie? Écoutez, si vous aviez cette idée, laissez tomber, parce qu'en gros, une telle société ferait quoi? Elle ferait passer un premier sondage d'idéologie, mettons à des Français, et elle met la clé sous la porte. Ça ne sert à rien de refaire passer un autre sondage d'idéologie. Pourquoi ? Parce que l'idéologie, c'est extrêmement stable. L'idéologie sur un domaine particulier que vous avez ce matin, elle n'aura pas changé après mon cours. Elle n'aura pas changé demain. Sauf cas extrêmement rare, une révolution. Prenons le cas de la Tunisie, je parlais tout à l'heure du printemps arabe. Là, oui, il peut y avoir modification d'idéologie. Mais vous le voyez bien, c'est extrêmement, extrêmement rare. Et c'est partagé par toute une société, ou pratiquement toute une société. À partir de cette idéologie très stable, très partagée, Rouquette nous explique qu'il y a des représentations sociales qui découlent en quelque sorte de cette idéologie. Alors, une ou des représentations sociales. Une représentation sociale, c'est une manière de voir le monde, de se représenter le monde. Ce sera l'objet de mon cours de la semaine prochaine. Une représentation sociale, elle est moins partagée, elle est moins collective, elle est sociale par définition. Donc, elle est relative à des groupes sociaux, à des groupes donnés, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les bretons, les ceci. À partir de ces représentations sociales, voyez, on descend dans la stabilité, parce qu'une représentation sociale peut évoluer, peut se créer, peut se transformer, peut se modifier, peut disparaître. À partir de ces représentations, on aboutit à des attitudes. L'attitude, pour aller vite, c'est la relation affective entre un individu et un objet. Je caricature, je simplifie. Je suis favorable ou défavorable à tel objet. Je suis pour ou je suis contre, j'aime ou je n'aime pas. Ces attitudes, notez-le bien, sont individuelles. Elles sont individuelles, elles ne sont pas sociales, elles ne sont pas collectives, elles sont bel et bien individuelles, mais elles peuvent être partagées. Vous pouvez avoir la même attitude vis-à-vis des examens à l'université. C'est votre attitude personnelle, mais c'est une attitude partagée. Certains parlent d'attitude sociale. Et à partir de l'attitude, on redescend encore. Pour Rouquette, il y a les opinions. Consensus extrêmement faible, stabilité extrêmement faible. Pourquoi faisons-nous constamment des sondages d'opinion ? Parce que l'opinion bouge, parce que l'opinion se transforme, parce que l'opinion évolue. J'aurais pu, avant ce cours, en commençant ce cours, bonjour, petit sondage d'opinion. Que pensez-vous de ce cours ? Vous n'avez pas encore commencé, d'accord ? C'est même pas moi qui vais le faire passer. Et puis je vous fais passer le même sondage après la partie sur l'organisation. Vous savez, le moment où je vous dis que ce sera un dossier, trois dossiers à rendre par binôme, à des dates données, au bout de 6 semaines, le premier dossier, puis le second dossier, etc., etc. Et là, je vous fais passer le même sondage. Vous le trouvez si bien, le cours ? Puis j'attends la fin, je vous refais passer le sondage. Et puis, dans une semaine, on voit bien que là, on a un cours qui est... On a un son... 3-4. On voit bien. Je regarde le temps qu'il me reste. On voit bien dans ces cas-là qu'on a une opinion qui évolue, qui se transforme, d'où l'importance de sondages d'opinion, parce que nous sommes à un niveau ici extrêmement faible de consensus et de stabilité aussi très basse. Prenons un exemple, celui du nationalisme. Donc on a toujours idéologie, représentation, attitude, opinion. Le nationalisme comme idéologie. Le nationalisme à la base, ce n'est pas connoté. C'est quoi le nationalisme, tiens d'ailleurs ? Vous me donnez une définition, s'il vous plaît, du nationalisme ? C'est pas un piège, hein ? Le nationalisme, c'est le fait d'aimer sa patrie, d'aimer son pays. Vous pouvez être d'accord avec moi sur cette définition, une définition extrêmement large. Donc, nous sommes aussi d'accord que le nationalisme, en soi, n'est ni positif ni négatif. Être nationaliste, c'est simplement aimer son pays, aimer sa patrie. Bon, alors partons du nationalisme. À partir du nationalisme, on peut avoir différentes représentations sociales. Une représentation sociale de son pays. La France. Hein, la Bretagne, c'est une région. Okay. Donc la représentation sociale de mon pays, c'est la France. On peut avoir une représentation sociale des autres pays du monde. La représentation des Belges, des Suisses, des Grecs, des Espagnols, des Portugais, des Chinois, des Américains. Et puis on peut avoir, ce qui m'intéresse, la représentation sociale de l'étranger. L'étranger, c'est qui ? C'est l'autre. C'est celui qui n'est pas de mon pays français. C'est celui qui n'a pas la nationalité de mon pays. La France, dans le cas qui m'intéresse. Alors regardons cette représentation sociale de l'étranger. À partir de la représentation qu'on peut avoir de l'étranger, de l'autre, deux types d'attitudes peuvent découler. D'une part, une attitude de type bienveillance. L'autre est le bienvenu dans ma société. J'accepte l'autre en France. Attitude favorable. Et on peut avoir, à l'opposé, une attitude défavorable. Attitude de rejet, de discrimination, attitude raciste. L'autre est bien mieux dans son pays, pas chez moi. C'est un exemple caricatural ici, hein, avec deux attitudes qui s'opposent assez fortement. On pourrait trouver d'autres exemples où les attitudes ne s'opposent pas aussi fortement. Mais vous voyez bien que l'attitude ici dépend de la représentation que l'on se fait de l'autre, qui dépend elle-même de l'idéologie. Et à partir de ces attitudes, on peut avoir, si je prends l'attitude positive, favorable, on peut avoir des opinions du type « l'altérité de l'étranger peut nous apporter quelque chose de positif ». Bon, ok, entre vous et moi, le matin, au bar, ceux qui sont avec leur petit ballon de blanc, vous ne trouverez personne qui sera en train de dire « je pense que l'altérité de l'autre peut nous apporter quelque chose de positif ». Je l'ai résumé ici, enfin c'est résumé ici. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que dans ces cas-là, l'opinion, c'est de dire « ouais, les étrangers, ils sont les bienvenus, ils, grâce à leurs différences, ils vont nous apporter des points de vue différents et une société ne peut s'élaborer, ne peut se transformer que grâce à l'apport de l'autre ». L'autre est la richesse. Mais on peut avoir une opinion d'un autre type. Grâce à la main-d'œuvre étrangère, la situation économique du pays s'améliore. C'est toujours une attitude favorable, hein. Les étrangers sont toujours les bienvenus. Mais enfin, ils sont surtout les bienvenus pour faire des boulots que les Français ne voudraient pas faire. Pourtant, c'est bien une opinion qui découle d'une attitude positive. Vous voyez que les opinions peuvent être extrêmement diverses. À l'opposé du côté de l'attitude raciste, de comportement discriminatoire, de rejet, je ne vais pas vous donner des exemples précis, il y en a plein. Les X sont inférieurs aux Y, les W sont des voleurs, les Z sont fainéants, les R sont des abrutis. Alors ce qui est génial hein, avec le type de formule, c'est que vous pouvez remplacer mes lettres par ce que vous voulez. Ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre. Donc ça, ce sont des opinions de type raciste. Alors, si on reprend mon mot du départ, mon idéologie, on voit là que le nationalisme en tant que tel, il peut être positif ou négatif. Aujourd'hui, en France, si quelqu'un se déclare nationaliste, vous imaginez un peu, tiens, on parlait de formation d'impression. Bonjour, Sylvain Delouvet, je suis nationaliste. Ok, je ne suis pas sûr que je gagne des points, là. Hein. Je ne pense pas qu'en France, ce soit une bonne chose. Vous imaginez le matin, vous savez ce que je fais le matin, la première chose, je monte le drapeau français. Évidemment que non. En France, si on se dit nationaliste, immédiatement, on a une vision très précise. Hop, 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 c'est ça. Ah ouais, t'es nationaliste? Ouais, bah, c'est bien, bah, reste chez toi. Maintenant, vous prenez un autre pays. Je vous mets au défi de trouver au Brésil un bar où il n'y a pas de drapeau brésilien. Ça n'existe pas. Dans tous les bars brésiliens, il y a au moins, je dis au moins, parce que parfois, il y a au moins un drapeau brésilien. Maintenant, en France, vous allez dans un bar, vous rentrez, tiens, je ne connaissais pas. Et là, vous voyez plein de drapeaux français. Non, non, je ne cherchais rien. Merci. Quand je suis arrivé en Bretagne, parce que vous avez peut-être compris que je n'étais pas breton, d'origine, quand je suis arrivé en Bretagne, des amis ont voulu me faire plaisir. Tiens, chouette, on va t'emmener boire un verre. Jusque-là, tout allait bien. Ah, tu vas voir, c'est super sympa, cet endroit. Tiens, vas-y, rentre. Et là, le drame. Que des drapeaux bretons. Et vous voyez l'influence culturelle? Moi, je ne suis pas régionaliste. Pour moi, il n'y a pas de différence entre les régions. Donc, par conséquent, m'emmener dans ce lieu, pour moi, ça fait à peu près la même chose si on vous emmenait dans un lieu où il n'y a que des drapeaux français. Mais pourtant, pour ceux qui sont là, ce n'est pas forcément une haine de l'autre. C'est juste une amour, j'ai juste un amour, pardon, de sa région. Mais ça ne veut pas dire, parce que l'on aime sa région, qu'on déteste les autres. Or, dans notre pensée, on peut aboutir à ça. Et vous voyez bien la différence, là, entre des valeurs culturelles différentes. Excusez-moi. Pour terminer, parce que j'ai été un peu plus rapide avec votre groupe. Donc pour terminer, une phrase que vous allez pouvoir noter, inscrire. Non. Ça, c'était la fin, c'est pas encore la fin. Donc pour terminer, une phrase que vous allez pouvoir noter, inscrire, qui servira de transition avec notre cours de la semaine prochaine. Il n'existe pas a priori de réalité objective, mais toute réalité est représentée. Celle-là, ouais, vous pouvez la noter. Hein. C'est-à-dire appropriée par l'individu ou le groupe, reconstruite dans son système cognitif, intégrée dans son système de valeurs, dépendant de son histoire et du contexte social et idéologique qui l'environne. Ouf, point, je reprends mon souffle. Et c'est la dernière phrase qui m'intéresse le plus, celle qui va faire le lien avec le cours de la semaine prochaine, mais en fait le lien avec mes 4 séances, et même les séances de mes collègues, c'est cette réalité appropriée et restructurée qui constitue pour l'individu ou le groupe la réalité même. C'est cette réalité appropriée et restructurée qui constitue pour l'individu ou le groupe la réalité même. Dans les séances qui viennent, puis ensuite avec mes collègues, nous allons revenir sur cette question de la construction sociale de la réalité. Ce qui compte pour nous en psychologie sociale et dans ce que l'on va vous expliquer, ce n'est pas la réalité elle-même, ce n'est pas la réalité objective, c'est ce que j'appellerais la réalité subjective. Celle de l'autre, celle du regard de l'autre, la réalité qui est reconstruite socialement. Vous pouvez noter cette dernière phrase en gros, en gras, en rouge, l'encadrer, la broder ce soir sur votre oreiller pour vous endormir à côté de cette phrase, qu'elle vous hante pendant une semaine. Ce sera toujours mieux que le générique de « Il était une fois à la vie », vous vous souvenez? Non, je ne le refais pas. Et donc, bien réfléchir à tout ça. J'ai quelques minutes d'avance, j'ai été plus rapide que le précédent groupe. Je vous invite à vous inscrire sur Cursus dès ce soir pour accéder aux diapositives, pour accéder aux différents documents. Vous verrez également que nous avons mis à votre disposition un forum si vous avez des questions. N'hésitez pas à poser des questions sur ce forum ou bien à m'écrire directement sylvain.delouvet@univrenne2.fr. Est-ce que vous avez des questions pour terminer? Je vous remercie, à la semaine prochaine.